Sur franceinter.fr, champignons et réglementation, c'est le point juridique de notre avocat gourmet, Maître Morin.
Sur France Inter, on va déguster.
Nous n'étions pas nés. L'homme n'existait même pas à part quelques traces de vivant, mais déjà, les champignons s'égayaient sur la Terre. C'était en gros, il y a 1,5 milliard d'années, c'est dire combien nous les avons toujours connus. Bienvenue dans le règne implacable et mystérieux des fungi. Il faut dire que la cohabitation avec l'homme a souvent été source de nombreuses histoires. L'empereur Claude, le pape Clément VII et même Bouddha seraient morts en mangeant des champignons toxiques. Sur l'île mystérieuse, Tintin voit surgir puis exploser d'énormes champignons rouges et blancs. Sans oublier le comte Pacôme de Champignac, je vous ai épargné ses autres prénoms, savant aristocrate rhumatisant et farfelu, dans les aventures de Spirou et Fantasio, qui passa sa vie à chercher des champignons rares et aux vertus parfois dangereuses.
C'est donc une longue histoire.
Et oui, et c'est que leur statut hybride a toujours intrigué. Ce ne sont pas des légumes, car dépourvus de chlorophylle, ce ne sont pas non plus des fruits. En droit, pourtant, ils sont inclus dans la catégorie fruits et légumes, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, qui autorise la consommation de 146 variétés de champignons. Parmi elles, seules 13 sont considérées comme cultivables. Il apparaît donc que le petit nombre de champignons cultivables, leurs conditions, leurs coûts de production, de même que leur prix de vente, provoquent peu de vocations champignonistes chez les producteurs. On dénombrait 600 exploitations de champignons en 1965, aujourd'hui à peine une quarantaine, du fait notamment de la concurrence étrangère. Malgré tout, certains champignonistes sont optimistes. Ils constatent un regain d'intérêt des Français pour les champignons provenant de leur propre pays. C'est le cas de Jérémy Abriac, producteur chez Champi 31, ou encore les Pleurotes de Paris, c'est une production créée par un couple, Alexandre et Viviane Zeda, qui recyclent le marc de café des bistrots parisiens pour cultiver dessus leurs pleurotes et autres micro-pousses. Tenez-vous bien, dans les anciens cachots de la caserne de gendarmerie Excelmans à Paris, ça me rappelle des gardes à vue.
À deux pas de nos studios de la maison de la radio.
Alors en fait, la réglementation nationale s'intéresse bien plus aux variétés de champignons qu'il ne faut pas consommer et dont la commercialisation est proscrite, bien plus qu'à celles qu'il faut consommer. Régulièrement, il y a des décrets, des arrêtés qui suspendent l'importation de certaines espèces. Alors revenons aux champignons de Paris. Comme la Chine produit plus de 70% des champignons dits de Paris dans le monde, les consommateurs ingèrent donc très rarement, on l'a vu, un champignon de Paris provenant véritablement de la ville Lumière. Ce qui pose un problème supplémentaire quand on sait que la Chine est le pays qui épand le plus de pesticides au monde. Et même s'il se réfère à un lieu, Paris, il ne bénéficie d'aucune dénomination d'origine protégée et ne pourra d'ailleurs pas en revendiquer une car son nom est devenu générique. C'est-à-dire libre d'utilisation et ne peut être revendiqué ni par un producteur seul, ni même par un groupement. Au même titre que la moutarde de Dijon, les choux de Bruxelles, les champignons de Paris sont donc détachés du lieu contenu dans leur nom, contrairement aux produits possédant une dénomination protégée. Et on ajoute à cela que le nom anglais du champignon de Paris, c'est-à-dire celui qui est utilisé dans le monde entier, est « button mushroom », en référence à son apparence, il n'y a effectivement nulle mention de Paris dedans.
Est-ce qu'il existe tout de même, Éric Morin, des origines protégées pour les champignons?
Oui, une seule dans toute l'Union Européenne, c'est le cep italien de la région de Parme. Alessandra Pierini n'est pas là, alors je vais le dire, Fungo de Borgotaro.
Borgotaro,
Borgotaro, enregistré en tant qu'indication géographique protégée depuis 1996.
Enfin, il est un lieu où il est particulièrement utile, on est en train de le découvrir ou de le redécouvrir.
Et oui, c'est l'interaction entre les champignons et la vigne. Quand on aborde ce sujet, on pense avant tout aux maladies, les maladies causées à la vigne par les champignons. De nombreux exemples redoutés par les vignerons, le plus courant étant le mildiou, l'oïdium ou la pourriture grise qui est même bien dosée d'humidité et de soleil provoque la pourriture noble, chère aux sauternes ou aux coteaux de Léon. Mais en France, les vertus des champignons pour la vigne commencent à être reconnues pour stimuler la croissance des plantes, assainir, filtrer, enrichir les sols. On sait aujourd'hui, après l'avoir trop souvent oublié pendant des décennies de destruction de terres viticoles, l'extrême importance de la biodiversité des sols. Et les mycorhizes, ça vient de mycos, champignons et rhizes, racines, sont des champignons qui vivent en symbiose, c'est-à-dire en association à bénéfice réciproque entre plusieurs êtres vivants. Ils facilitent aussi l'absorption des éléments peu mobiles, tels que le phosphore, le zinc ou encore le cuivre. Voilà. Tout est bon dans les bons champignons, avec une noix de beurre ou accrue pour certains, dont les champignons de Paris, surtout jamais les morilles crues, attention danger. L'homme n'en a pas fini avec les champignons et c'est heureux.
Et justement, vous parliez de champignons accrus, ça va être bientôt le cas avec Léa Fleuriot et vous évoquiez le rôle à venir, où toutes les recherches autour des champignons dans la vigne. Transition toute faite vers un petit hommage que vous vouliez adresser à un grand vigneron.
Voilà, on met souvent ici, et à raison, en avant des jeunes vignerons. J'aimerais rendre hommage à un ancien. Mmh. Un vigneron qui part à la retraite, c'est une cave entière de savoir qui s'efface.
Ouais.
D'où l'importance de la transmission dans la famille Breton, vigneron depuis 5 générations. Pierre Breton, le boss discret de Chinon et de Bourgueil, tire sa révérence après plus de 30 années de bons et loyaux services dans son fief de Restigné, entre Loire et Vienne. Il n'a eu de cesse de créer des vins de plus naturellement possible en bio et en biodynamie. Et dans les années 90, je vous assure, ça n'était pas une sinécure. Aux côtés d'abord de sa femme Catherine, la grande Catherine, puis de ses enfants France et Paul. Il a mis en vente récemment une vente limitée de ses plus beaux et anciens millésimes. Et comme ceux qui n'en ont jamais goûté disent que le vin naturel ne vieillit pas bien, je vous ai apporté un Bourgueil qui va fêter ses 20 ans.
Ah là là.
Bourgueil Lesperrières 2002, n'en cherchez pas un autre qui pourrait tenir ce temps-là avec une telle énergie. Il n'y en a pas. Vive la Loire, une fois de plus.
Ouais, et nul ne saurait ignorer la Loire, surtout celle de Pierre Breton. Et bonne retraite à Pierre Breton qui nous a fait tellement, tellement plaisir à travers toutes ces cuvées. Merci pour cet hommage. Et puis on continue effectivement à boire gentiment et avec modération Lesperrières, ce Bourgueil 2002 quand même.
2002, ouais.
20 ans.
Ouais.
Et il est tout fringant.
Ouais.
Vraiment incroyable.
Soyeux et plein de fruits de sous-bois.
Exactement.